CILSFM, la seule radio communautaire en français de la côte ouest canadienne.
Parole d'aîné est en ondes le samedi matin entre 9 et 10 heures et en rediffusion le lundi à 17 heures et le jeudi à 13 heures.
Bonjour Victoria, bonne fin d'après-midi en ce jeudi 13 avril et bienvenue à ceux qui nous écoutent également en rediffusion dans la matinée de vendredi. Joyeuse Pâques à tous ceux qui célèbrent cette fête religieuse. Il est 16h et des poussières, Alexis Gagnon avec vous pour la prochaine heure dans l'émission Le Débrief. Nous avons actuellement 9 degrés au mercure dans la grande région de Victoria. Ça va rester frais en soirée avec une probabilité d'averse se situant à environ 60%. Et on va donner le coup d'envoi à cette émission des 13 et 14 avril dans quelques instants. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Ça commence tout de suite avec une revue de presse internationale. Bonne émission à tous! Vous êtes dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous quotidien en info à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. Nous allons débuter cette édition des 13 et 14 avril avec une revue de presse internationale. On commence avec une nouvelle qui nous arrive du Moyen-Orient, c'est rapporté par l'agence France Presse. Assad affirme que l'attaque chimique est une fabrication à 100%. Le président syrien Bachar al-Assad a mis en cause les pays occidentaux pour avoir monté l'attaque chimique présumée à Khan Cheikhoun en Syrie, attaque qui était à l'origine de fortes tensions entre Washington et Moscou, dont les relations sont au plus bas actuellement. Dans un entretien exclusif accordé mercredi à l'agence France Presse sur Damas, le dirigeant syrien Bachar al-Assad a affirmé que son armée n'était pas responsable de l'attaque présumée qui a provoqué, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la mort de 87 civils dans cette ville rebelle du nord-ouest syrien le 4 avril. Il s'agit pour nous d'une fabrication à 100%, a déclaré le chef de l'État syrien qui s'exprimait pour la première fois depuis que cette attaque est survenue et une attaque qui a causé un vif choc dans le monde, précise l'AFP dans cet article. Notre impression est que l'Occident, principalement les États-Unis, est complice des terroristes et qu'il a monté toute cette histoire pour servir de prétexte à l'attaque qui a été menée le 7 avril par les États-Unis contre une base aérienne du régime syrien, a ajouté le dirigeant de la Syrie. Donc c'est dans le fil de l'agence France Presse. Le titre Assad affirme que l'attaque chimique est une fabrication à 100%. Nous poursuivons cette revue de presse internationale avec une autre nouvelle qui nous arrive de Syrie. Damas fait état d'un bombardement de dépôts de gaz toxiques. Des centaines de personnes auraient été tuées, dont des civils, lors du bombardement par les forces de la coalition de dépôts de gaz toxiques en Syrie, a déclaré jeudi l'armée syrienne. Les forces de la coalition internationale sous commandement américain ont, selon l'armée syrienne, bombardé des dépôts de gaz toxique du groupe État islamique mercredi soir dans l'est de la Syrie, faisant des centaines de morts, dont de nombreux civils. Ceci démontre que les djihadistes de l'État islamique et tous les militants liés à Al-Qaïda possèdent des armes chimiques, a indiqué l'armée syrienne dans un communiqué retransmis par la télévision d'État syrienne. Le bombardement s'est produit dans la province de Deir Azour, dans l'est du pays, indique le communiqué de l'armée syrienne. Aucune confirmation n'a pu être obtenue auprès de sources indépendantes, mais la coalition internationale conduite par les États-Unis a réfuté les accusations du gouvernement syrien. La coalition n'a mené aucun bombardement dans cette zone. À l'heure indiquée, les affirmations syriennes sont erronées et sont sans doute mal intentionnées, a indiqué le colonel John Dorian dans un courriel adressé à l'agence Reuters. Nous poursuivons cette revue de presse internationale avec un autre article aperçu dans le fil de l'agence France-Presse. Cette fois, ça concerne la Corée du Nord. Kim Jong-un parade devant les médias étrangers, c'est signalé par le correspondant de l'AFP, Sébastien Berger. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a inauguré en grande pompe et devant les médias étrangers jeudi à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, un imposant complexe résidentiel dans un effort pour polir l'image de son pays en pleine crise internationale sur ses programmes nucléaires. Des dizaines de milliers de soldats, de responsables du régime et de Kida s'était rassemblé très tôt jeudi matin à proximité du complexe, attendant dans la fraîcheur printanière l'arrivée du numéro 1 du régime. La Corée du Nord est la cible d'une multitude de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU en raison de ses programmes balistiques et nucléaires interdits. Et les tensions sur la péninsule coréenne se sont aggravées ces dernières semaines. Certains experts redoutent que la Corée du Nord, qui cherche à se doter de missiles intercontinentaux susceptibles de porter le feu nucléaire jusqu'au territoire américain, ne prépare un sixième essai nucléaire. Donc l'article se poursuit sur plusieurs lignes. Je vous encourage à le consulter si la situation nord-coréenne vous inquiète, vous préoccupe. C'est signé par Sébastien Berger dans le fil de l'agence France-Presse. On poursuit cette revue de presse internationale avec un article sur Donald Trump. C'est signé par la journaliste Juliette Mickiewicz dans le journal Le Figaro. Donald Trump fait volte-face sur l'OTAN qu'il ne juge plus obsolète désormais. Très critique contre l'OTAN durant sa campagne et au début de sa présidence, le président américain a assuré que l'Alliance Atlantique, l'OTAN, était un rempart pour la paix internationale. Alors qu'il donnait ce mercredi une conférence de presse, le président Donald Trump a fait l'éloge de l'OTAN aux côtés du secrétaire général de l'organisation politico-militaire, Jens Stoltenberg. Très critique contre l'OTAN lors de la campagne présidentielle américaine et au début de sa présidence, le président Trump a pourtant assuré que l'OTAN était désormais un rempart pour la paix internationale et qu'elle n'était plus obsolète désormais. Le président a toutefois répété que les alliés européens de l'OTAN devaient augmenter leurs dépenses de défense. Ces propos ont de quoi étonner, écrit la journaliste Juliette Mickiewicz. En janvier dernier, peu avant son investiture à Washington, Donald Trump avait semé le trouble en Europe en qualifiant l'OTAN d'obsolète. L'OTAN sera d'ailleurs l'un des sujets du sommet de l'Alliance le 25 mai, le mois prochain, à Bruxelles, en présence de Donald Trump. Il s'agira du premier voyage de Donald Trump en Europe, nous indique la journaliste Mickiewicz dans les colonnes du Figaro. Et nous poursuivons cette fois dans le courrier international. Retour sur le cas de la Russie. On parle d'un massacre terroriste qui était survenu en Syrie en 2004. Massacre de Beslan, le verdict sans concession de la Cour européenne. La réaction disproportionnée des forces de sécurité russes est en partie responsable du bilan extrêmement élevé de la prise d'otage de Beslan en Ossétie du Nord en septembre 2004, a déclaré jeudi la Cour européenne des droits de l'homme. Rappelez-vous, cette prise d'otage avait fait de nombreux morts et elle avait causé une commotion sur la scène internationale. Le 13 avril 2017, poursuit cet article de Courrier international, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEHD, a condamné Moscou à verser 3 millions d'euros aux familles des victimes de la prise d'otage à l'école de Beslan en 2004, rapportent tous les journaux aujourd'hui, jeudi. Plus de 400 requérants avaient saisi la cour, parmi lesquels certains anciens otages et blessés, d'autres faisant partie de familles de victimes. La Cour a estimé que la Russie n'a pas présenté de preuves suffisantes et convaincantes du fait que seuls les moyens nécessaires et proportionnés ont été utilisés pour sauver des vies. Autrement dit, les services secrets ont jugé qu'il était plus important d'éliminer les terroristes que de sauver des otages. Donc un jugement percutant contre la Russie de la part de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Vous trouverez ça dans tous les médias, je le disais. Il y a un bon résumé, c'est celui que je vous lisais dans les colonnes du Courrier international. On reste en Europe, cette fois dans le fil de l'agence Reuters. Varsovie veut pouvoir détenir des demandeurs d'asile dans des camps. La Pologne réfléchit à un dispositif qui lui permettrait de détenir des demandeurs d'asile dans des camps installés à ses frontières, a annoncé jeudi le ministre polonais de l'Intérieur, qui dit s'appuyer sur l'expérience hongroise. C'est une idée pour une situation d'urgence qui a bien fonctionné en Hongrie, a déclaré Mariusz Baszlak à la radio Z, une radio hongroise. La Pologne, comme d'autres pays d'Europe centrale, refuse de respecter le plan de la Commission européenne qui souhaite répartir les migrants et réfugiés provenant d'Afrique et du Moyen-Orient dans différents pays européens. La Hongrie a adopté le mois dernier une législation lui permettant d'installer des camps de détention frontaliers en dépit de l'hostilité manifestée par les Nations Unies. Voilà, donc une nouvelle sur la Pologne qui fait bande à part, refusant d'obtempérer aux recommandations de la Commission européenne sur la question des migrants. On se transporte dans les colonnes du journal Ouest-France. Matière fécale, plus d'un quart de la planète boit de l'eau contaminée. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a tiré la sonnette d'alarme ce jeudi sur l'état de l'eau dans le monde, indiquant que près de 2 milliards de personnes utilisent encore de l'eau potable contaminée par des matières fécales, avec pour conséquence des risques accrus de choléra, de dysenterie, de typhoïde ou encore de polio. Aujourd'hui, près de 2 milliards de personnes utilisent une source d'eau potable contaminée par des matières fécales. Par la voix de sa directrice du département santé publique, la docteure Maria Neira, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a voulu informer la communauté internationale. On estime que l'eau potable contaminée cause plus de 500 000 décès provoqués par la diarrhée chaque année, a ajouté la spécialiste Maria Neira. Plus généralement, les personnes qui boivent de l'eau potable contaminée s'exposent davantage à contracter des maladies telles que le choléra, la dysenterie, la typhoïde et la polio. Alors, cette nouvelle paraît dans Ouest-France. Vous la trouverez dans d'autres médias également. Dans les colonnes du média de l'agence Reuters, plutôt, le choléra s'étend en Somalie, rapporte l'OMS. Le choléra ne cesse de se propager en Somalie, où plus de 25 000 personnes ont contracté la maladie, un nombre qui pourrait doubler d'ici l'été, a rapporté jeudi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le pays est frappé par la sécheresse et les risques de famine grandissent jour après jour. Toujours dans Reuters, et toujours sur le continent africain, le Nigeria négocie la libération des lycéennes de Chibok. Le gouvernement nigérian a annoncé jeudi négocier la libération des lycéennes de Chibok, encore retenues 3 ans après leur enlèvement par la secte islamiste Boko Haram. Le gouvernement est en contact constant via des négociations, des activités de renseignement pour obtenir la libération des dernières filles et autres personnes enlevée, a déclaré dans un communiqué le président Muhammadu Buhari. C'est dans le fil de l'agence France Presse. C'est sur cette nouvelle que se termine le tour d'horizon des informations internationales. L'émission Le Débrief se poursuit dans quelques instants avec la revue de presse nationale. Restez à l'écoute. Nous allons nous tourner à présent vers les nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale pour les 13 et 14 avril. Tenez promesse, déclare Malala aux élus canadiens. L'éducation des filles est un droit partout, a rappelé la jeune Nobel de la paix. Voilà un article qui est signé par Marie Vastel dans le journal Le Devoir. Vous le devinez, elle rapporte les propos de la jeune Malala Yousafzai, une militante pakistanaise des droits de la personne, qui était de passage au Parlement fédéral cette semaine. La jeune Malala Yousafzai a livré un discours poignant en venant recevoir sa citoyenneté honorifique à Ottawa, appelant le Canada à montrer l'exemple en faisant de l'éducation des jeunes filles dans le monde une priorité. Je sais que les politiciens ne peuvent pas tenir toutes leurs promesses, mais celle-ci, c'est celle que vous devez honorer, a-t-elle lancé au parterre d'élus canadiens en leur rappelant que le droit à l'éducation pour tous figure parmi les objectifs de développement durable de l'ONU qu'a appuyé le Canada. Or, 130 millions de filles n'ont toujours pas accès aux bancs d'école dans le monde, a-t-elle noté. Le Canada devrait faire de ce dossier sa priorité lorsqu'il héritera de la présidence du G7 l'an prochain et récolter les fonds nécessaires parmi ses alliés. Je sais que si le Canada mène le bal, le monde lui emboîtera le pas, a insisté Malala. Laissons la prochaine génération dire que nous avons été de ceux qui se sont tenus debout. Laissons-les dire que nous avons été les premiers à vivre dans un monde où toutes les filles peuvent apprendre à être des leaders sans avoir peur, a-t-elle lancé, accueillie par une énième ovation. Rappelons que Malala Yousafzai a dû quitter le Pakistan après avoir survécu au bal des talibans en 2012. Les talibans l'avaient de nombreuses fois menacée de mort parce qu'elle se portait à la défense des jeunes filles et manifestait en faveur de l'éducation des jeunes filles. Elle a donc dû quitter le Pakistan après cet attentat en 2012. Elle n'était âgée que de 15 ans à cette époque. Projet de loi Omnibus, le premier ministre Trudeau taxé d'hypocrisie. C'est un article qui est publié dans la presse sous la plume de Maxime Bergeron. Le gouvernement Trudeau s'est fait taxer d'hypocrisie à plusieurs reprises hier après avoir déposé mardi un projet de loi Omnibus de 300 pages sur le dernier budget fédéral. Un projet de loi qui aborde une trentaine de sujets apparemment sans lien les uns avec les autres. Pendant sa campagne électorale, Justin Trudeau s'était engagé à réglementer le recours au projet de loi Omnibus, procédure qui vise à faire adopter une ou plusieurs lois et à abroger ou modifier une ou plusieurs lois déjà existantes. Le premier ministre, qui était alors en campagne, accusait à l'époque les conservateurs de Stephen Harper de recourir trop souvent à cette tactique jugée peu démocratique. Or, selon ses détracteurs, le gouvernement libéral a rompu cette promesse de campagne avant-hier en déposant son imposant projet de loi Omnibus sur le budget fédéral, un projet de loi qui va dans de nombreuses directions différentes. Le projet de loi de la mise en œuvre du budget change pas moins de 30 lois existantes, de l'immigration à la justice en passant par la protection de la navigation, a déploré le député néo-démocrate Alexandre Boulris. Vous trouverez cet article dans les colonnes du journal La Presse sous la plume de Maxime Bergeron. On passe maintenant au fil de la presse canadienne. Source journalistique, les conservateurs demandent l'appui du gouvernement. La protection des sources journalistiques est maintenant dans le camp de la Chambre des communes. Le Sénat a adopté à l'unanimité en troisième lecture mardi soir le projet de loi déposé en novembre dans la foulée du scandale sur la surveillance des journalistes qui avait secoué le Québec. Le projet de loi, a déclaré Gérard Deltel, un élu conservateur, va justement empêcher ça en renversant le fardeau de la preuve et aussi en donnant une prépondérance aux journalistes plutôt qu'aux policiers dans certains cas. S'il est adopté par les parlementaires, le projet de loi S-231 transférerait la responsabilité d'étudier les demandes de mandat de perquisition visant des journalistes au juge de la Cour supérieure. Cette responsabilité incombe présentement au juge de paix. Le projet de loi permettrait également de mieux protéger la confidentialité des sources journalistiques en modifiant la loi sur la preuve. Une personne devrait ainsi démontrer au tribunal qu'il n'existe aucun autre moyen raisonnable de mettre en preuve un renseignement ou un document qui révélerait l'identité d'une source journalistique. Cette personne devrait aussi prouver que l'intérêt public dans l'administration de la justice l'emporte sur l'intérêt public à préserver la confidentialité de la source journalistique. L'élu conservateur Gérard Deltel espère que le gouvernement libéral appuiera ces nouvelles mesures législatives. Il a été démontré hors de tout doute raisonnable qu'il y a une crise qui a secoué les médias alors qu'on a appris que des journalistes professionnels, rigoureux et reconnus étaient sous écoute pour aucun motif valable. Et ça, il faut mettre un frein à ça, a-t-il déclaré. Donc, c'est les propos de Gérard Deltel rapportés par le journaliste de La Presse canadienne. Le titre, source journalistique, les conservateurs demandent l'appui du gouvernement. Et on revient dans les colonnes du journal Le Devoir, cette fois pour évoquer un article publié par Hélène Buzetti. Les libéraux l'avaient promis et il passe à l'acte. Le directeur parlementaire du budget deviendra un agent du Parlement à part entière, comme le sont le vérificateur général ou le commissaire aux langues officielles. C'est un article qui s'intitule « Une indépendance dénuée de réel pouvoir ». Le principal intéressé, en effet, le directeur parlementaire du budget, n'applaudit pas cette nouvelle mesure. La journaliste rappelle que le directeur parlementaire du budget effectue des analyses sur l'impact financier des décisions politiques prises par le gouvernement fédéral. Créé par les conservateurs, ce poste relevait jusqu'à présent de la bibliothèque du Parlement. Le titulaire pouvait être remercié. Désormais, le titulaire relèvera du Parlement et sera nommé à titre inamovible pour 7 ans. Donc, il ne pourra pas être renvoyé. L'actuel directeur parlementaire du budget, Jean-Denis Fréchette, déplore que le projet de loi mettant en œuvre ces changements n'en profite pas pour lui accorder le pouvoir de contraindre l'appareil gouvernemental à lui fournir les données qu'il réclame pour ses calculs. On sait que son prédécesseur, Kevin Page, s'était battu en vain pour connaître la nature des services sabrés par le gouvernement conservateur pendant son opération de dégradation. Alors voilà, une mesure qui semble cosmétique, nous rapporte la journaliste Hélène Buzetti dans les colonnes du journal Le Devoir. Une indépendance dénuée de réel pouvoir. Un autre article aperçu pour vous dans la presse nationale. Le Parti conservateur modifie le format du débat des candidats à la direction. C'est rapporté par la presse canadienne. Le Parti conservateur du Canada a finalement cédé à la pression et décidé de changer le format du dernier débat de la course à la direction qui aura lieu à la fin du mois. Lors des débats antérieurs, les 14 candidats étaient sur scène pour toute la durée des échanges, un format qui avait été critiqué car il laissait peu de place à des discussions en profondeur sur les sujets abordés. Voilà, donc le Parti conservateur qui a entendu les critiques et qui a modifié quelque peu le format des prochains débats à la direction. Donc, la course à la chefferie se poursuit, course qui vise à nommer un successeur à Stephen Harper, bien sûr. Donc, on poursuit cette fois dans Le Devoir qui nous signale la disparition d'un grand scientifique. Disparition du docteur Mark Weinberg, un pionnier dans la lutte contre le VIH-SIDA. C'est un article qui est signé par Pauline Gravel. Le docteur Mark Weinberg, pionnier en recherche sur le VIH-SIDA et grand défenseur des droits des homosexuels et des malades, est décédé mardi à l'âge de 71 ans. Il s'est noyé au large de Bal Harbour, en Floride, alors qu'il se baignait en compagnie de son fils et de son petit-fils. Directeur d'une équipe de recherche en virologie à l'Hôpital général juif de Montréal, le docteur Weinberg a participé en 1989 à la découverte du 3TC, le deuxième médicament antirétroviral après l'AZT, un médicament qui s'est avéré efficace pour combattre le VIH. Quand il fut président de l'Association internationale du SIDA de 1990 1998 à 2000, rappelle cet article, le docteur Weinberg a insisté pour que la conférence internationale sur le VIH-Sida se tienne en Afrique, soit au cœur de l'épidémie. Le fait que le congrès ait eu lieu à Durban, en Afrique du Sud, a orienté les projecteurs sur la progression de la maladie sur ce continent, ce qui a finalement permis d'offrir des traitements aux Africains, a souligné le docteur Régent Thomas, fondateur de la clinique L'Actuelle, qui est interviewé dans cet article de Pauline Gravel dans le journal Le Devoir. Je vous rappelle le titre, Disparition du docteur Mark Weinberg, un pionnier dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est ce qui complète la revue de presse nationale. Restez des nôtres, l'émission Le Débrief se poursuit dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. Vous écoutez l'émission Le Débrief. Pour la rubrique francophonie d'aujourd'hui, je vous propose un éditorial signé par François Gravel dans le journal néo-brunswickois L'Acadie Nouvelle. Le texte revient sur la télésérie The Story of Us, diffusée récemment à l'antenne de la CBC. Nous y retrouvons le point de vue acadien sur cette série qui a suscité de nombreuses critiques. Alors le texte, je le disais, est signé par François Gravel. Il écrit d'entrée de jeu: la télésérie portant sur l'histoire du Canada, diffusée sur les ondes de la CBC, soulève la controverse et ce n'est pas peu dire. De l'Acadie au Parlement, en passant par Annapolis Royal et le Québec, on trouve beaucoup à redire sur cette série qui a une conception fort limitée de notre pays. Canada, The Story of Us a été commandé par les services anglais de la télévision publique CBC et vise clairement un public anglophone. La saga de la Nouvelle France est résumée en un seul épisode. L'histoire qu'on nous présente est avant tout celle du Canada anglais. Les francophones ne comptent que pour des notes de bas de page. La déportation de 1755 aurait mérité en elle-même un épisode complet, écrit l'éditorialiste. Elle n'a même pas été mentionnée. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on encore aujourd'hui, et ceux-ci n'avaient peut-être pas le goût de voir sur leur téléviseur leurs ancêtres expulsés des hommes, des femmes et des enfants de leur foyer pour une question de terre, de langue, de foi et de serment. Cette situation, continue l'éditorialiste, est particulièrement frustrante du fait que la série a été tournée dans le cadre des festivités du 150e anniversaire du Canada. Et du point de vue des producteurs et de la CBC, il est désormais clair que cette histoire n'inclut pas tout le monde. Les Acadiens ne sont d'ailleurs pas les seuls à faire partie des oubliés de l'histoire à la sauce CBC. Quelques 12 000 ans d'histoire ont été résumés en quelques minutes seulement au tout début de la série. Vous comprendrez que les Autochtones qui habitaient le territoire bien avant l'arrivée des premiers colons ne se reconnaissent pas beaucoup dans cette série. Les responsables de la série soulèvent toutefois un bon point quand ils affirment qu'il est impossible dans ce genre d'exercice de plaire à tout le monde. Pour en faire la preuve, nul besoin de remonter des siècles en arrière. Les critiques sont normales, poursuit François Gravel dans cet éditorial. Tous n'ont pas la même conception de l'histoire. Les manuels dans les salles de classe du Québec sont fort différents de ceux du Nouveau-Brunswick ou de l'Alberta. Il y aura toujours des divergences. CBC aurait consacré 10 épisodes aux Acadiens à Port-Royal, à Louisbourg, à la déportation et à Louis J. Robichaud que des critiques, tout de même, auraient été entendues ici et là. Néanmoins, nous aurions aimé que les producteurs de Canada Story of Us aient au moins la décence d'essayer de mieux nous représenter. Ils ne se sont même pas donné cette peine. Du point de vue de ceux qui présentent cette version alternative de l'histoire, l'Acadie n'existe pas. Nous ne faisons pas partie du Us. Plus qu'un choix éditorial, il s'agit d'un pied de nez à un peuple qui a joué un rôle crucial dans les origines de notre pays et un oubli inacceptable d'un pan d'histoire qui aurait dû être raconté. Donc voilà la vie de François Gravel dans les pages éditoriales du média acadien L'Acadie Nouvelle, l'un des médias les plus importants de la francophonie hors Québec au Canada. Alors voilà qui conclut la rubrique francophone. Vous écoutez l'émission Le Débrief, Alexis Gagnon au micro. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
J'aime ta belle robe rouge, j'aime tes beaux colliers. Comment tu bouges, on a toute la soirée, rien que minuit moins quart, y'a du monde qui parle, y'en a qui veulent danser, moi je veux faire le party, il faut que ça saute, sortez les tables dehors. Danse avec moi, ben on va s'amuser. Oh, danse pas avec lui, viens faire un nouvel ami. Laisse le fret dehors, rien que minuit moins quart. Qu'il restera de la bière, puis qu'il restera du fort. Le party continue, l'horloge est dans la rue. J'ai gris pour 20 ans, rien que minuit moins
Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Merci de votre écoute pour cette édition des 13 et 14 avril. Mon nom est Alexis Gagnon. Je vous accompagne dans cette heure d'information sur les ondes du 107,9 FM et nous allons passer de ce pas aux nouvelles provinciales et locales. On commence avec une nouvelle qui paraît sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Une nouvelle sur l'état d'urgence sanitaire en Colombie-Britannique. Opioïdes. Un an d'état d'urgence en Colombie-Britannique, mais pas de nouveaux centres d'injection. Près d'un an après la mise en place d'un état d'urgence sanitaire en Colombie-Britannique en raison de la crise des surdoses, aucun nouveau centre d'injection supervisé n'a été approuvé par le gouvernement fédéral, déplore la docteure Patricia Daly, médecin en chef à la Régie de la santé de Vancouver Coastal. La création de plusieurs centres est réclamée dans la province afin de répondre plus efficacement au fléau des opioïdes, notamment totalement à celui du fentanyl qui est retrouvé presque dans tous les cas de surdose. En 2016, plus de 900 personnes sont mortes de surdose de drogues illicites dans la province, rappelle cet article de Radio-Canada. La procédure fédérale d'obtention d'une exemption pour ouvrir les centres d'injection supervisés est bien trop longue, a déploré Patricia Daly devant le conseil municipal de Vancouver cette semaine. La régie de la santé Vancouver Coastal a déposé deux candidatures auprès d'Ottawa en octobre dernier et n'a toujours pas eu de réponse. La régie de la santé de Fraser est, quant à elle, dans l'attente de l'approbation de deux centres du côté de Surrey. Et la régie de la santé de Vancouver, de l'île de Vancouver plutôt, a déposé un dossier pour la ville de Victoria. Et la régie de l'intérieur, l'Interior BC, attend elle aussi un feu vert pour deux centres, à savoir Kamloops et Kelowna. Le médecin en chef de la province, Perry Kendall, a également pris la parole à l'hôtel de ville de Vancouver pour appuyer le discours de la docteure Daly. Bien qu'il ait salué l'investissement de 10 millions de dollars d'Ottawa pour la gestion de cette crise, il estime qu'il faut former plus de médecins pour un meilleur traitement des dépendances, une plus grande accessibilité aux prescriptions médicales. Il faut aussi un débat pour mettre fin à l'ostracisation des toxicomanes, ainsi qu'un meilleur cadre réglementaire, ainsi finalement qu'une vraie stratégie nationale pour tout le Canada. C'est l'avis de Perry Kendall, qui est médecin en chef de la province de Colombie-Britannique. Donc, vous trouverez cet article qui se poursuit quelques lignes encore. Je vous rappelle le titre: opioïdes, un an d'état d'urgence en Colombie-Britannique, mais pas de nouveau centre d'injection supervisé. On poursuit sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Une nouvelle sur le secteur de l'énergie qui concerne tout l'Ouest canadien. L'Alberta demande le statut d'intervenant dans la contestation du pipeline Trans Mountain. Le gouvernement de l'Alberta a déposé une demande de statut d'intervenant auprès de la Cour fédérale dans la contestation judiciaire de l'approbation de l'expansion du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan. Le projet de 6,8 milliards de dollars qui vise à tripler la capacité de l'oléoduc existant entre l'Alberta et Burnaby dans la grande région de Vancouver a été approuvé, rappelle l'article, par l'Office national de l'énergie en mai 2016, il y a un an donc. Le gouvernement fédéral de Justin Trudeau avait quant à lui donné son autorisation à la capacité accrue du pipeline en novembre dernier, vers la fin de l'année 2016. Alors actuellement, dans cette contestation, il y a 16 groupes, indique cet article de Radio-Canada. On trouve par exemple les villes de Vancouver et Burnaby, la première nation Squamish, la nation autochtone de Coldwater, la nation autochtone de Musqueam et les organismes Raincoast Conservation Foundation ainsi que Living Oceans Society. Alors toutes ces parties ont demandé une révision judiciaire de la décision de l'Office national de l'énergie qui avait été rendue en mai 2016. Alors, tous ces 16 groupes font valoir que l'Office n'a pas examiné correctement l'impact environnemental du projet avant d'accorder son approbation. Alors, on le devine, le gouvernement de l'Alberta veut obtenir le statut d'intervenant pour faire valoir des arguments en faveur du projet Trans Mountain, évidemment. Alors, on verra quelle réponse sera donnée à cette demande. On poursuit dans le portail de Radio-Canada, toujours dans cette revue de presse des nouvelles provinces. Logement, emploi et pauvreté, les candidats entrent dans le vif du sujet. Alors, vous devinez qu'on parle de la campagne électorale provinciale qui va culminer avec le scrutin du 9 mai dans quelques semaines. Pour la première journée complète de campagne électorale britanno-colombienne en vue du scrutin du 9 mai, les leaders des trois principaux partis se sont attaqués à de gros enjeux électoraux, peut-on lire dans cet article. Le chef du nouveau parti démocratique, le NPD, a choisi le quartier West End à Vancouver pour parler de logement, ou plutôt de logement abordable. Une grande part de son propos a porté sur les locataires qui sont nombreux dans ce quartier de Vancouver. S'il est élu, le chef du NPD, John Horgan, s'engage à subventionner les locataires jusqu'à hauteur de 400 $ par année. Les critères d'éligibilité, la façon dont cette subvention sera accordée et le coût de cette promesse pour le Trésor public seront rendus publics cette semaine, dans quelques jours, lorsque le NPD va rendre publique sa plateforme électorale. Donc, à l'heure où sera diffusée cette émission, vous aurez peut-être de plus amples détails là-dessus. Alors, le chef du NPD s'engage aussi à resserrer la loi sur la location résidentielle en faveur des locataires victimes de hausses de loyers abusives. Donc, voilà le début de cet article paraissant sur le portail de Radio-Canada. C'est intitulé « Logement, emploi et pauvreté, les candidats entrent dans le vif du sujet ». On poursuit avec une nouvelle qui relève un petit peu du fait divers. Ça s'est passé du côté de Kamloops. Malheureusement, on a déploré la mort de deux pêcheurs sur glace. Ils ont été trouvés morts cette semaine. Deux pêcheurs qui manquaient à l'appel ont été retrouvés morts près de Kamloops en Colombie-Britannique. L'agent de la Gendarmerie royale du Canada, Dan Moskalouk, indique que les hommes pêchaient sur la glace sur le lac Red. Ils ont été portés disparus en début de semaine. L'équipe de recherche et de sauvetage de Kamloops a lancé une opération de recherche pour retrouver les victimes, mais des conditions glaciales et dangereuses ont ralenti les efforts de rescousse. L'équipe de récupération sous-marine a retrouvé les deux hommes qui étaient dans la soixantaine dans le lac Red en après-midi mercredi. Donc voilà, un fait divers du côté de l'intérieur où on a aussi déploré des avalanches cet hiver et cette fois c'est un cas de décès suite à une glace trop mince sur le lac Red. Et on va se diriger du côté de la presse anglophone, toujours dans cette revue de presse provinciale. Strike 2 for BC Liberals as privacy watchdog dismisses call for NDP probe. Alors, le commissaire à la vie privée de la Colombie-Britannique a rejeté pour une deuxième fois les demandes du Parti libéral provincial qui portait plainte contre le parti des néo-démocrates. Il était question d'accès illégaux à des informations privilégiées du Parti libéral. Le Parti libéral pointait du doigt son rival, le Parti néo-démocrate. Alors, il se trouve que le commissaire à la vie privée de la Colombie-Britannique a rejeté ses plaintes. Vous trouverez cette nouvelle, si ça vous intéresse, dans le fil de la presse canadienne du côté anglophone. On va se déplacer dans les colonnes du média local Victoria News, que l'on trouve à l'adresse vicnews.com, c'est l'adresse de leur portail. On nous parle d'un développement immobilier ici au centre-ville de Victoria, un développement immobilier qui est fortement encouragé, voire impulsé par la maire Lisa Helps, la maire de Victoria, mairesse comme vous voulez. Alors il s'agit d'un projet de développement immobilier qui est un petit peu différent de ce qu'on voit beaucoup à Victoria actuellement. Donc il s'agit plutôt cette fois de maisons unifamiliales familiale à coût abordable et c'est en plein centre-ville sur Yates, non loin de Douglas et Blanchard. Vous aurez tous les détails dans cet article qui paraît dans le portail vicnews.com. On parle de bâtiments qui vont se situer aux environs des adresses civiques 848 et 850 Yates. On parle de 224 unités de logement. Alors, ça ne sont pas des maisons unifamiliales, comme je le disais, ce serait plutôt des unités de logement qui auront des particularités vraiment communautaires, peut-on lire dans cet article. Il y aura une terrasse, par exemple, sur le toit. Il y aura un parc. Il y aura des aires de jeu, des aires de rangement de vélos, des aires de détente et il y aura même un espace consacré à la production de légumes, de fruits et légumes, donc un jardin communautaire vraisemblablement. Alors c'est un projet qui est porté par l'entité Chard Development qui est un organisme basé à Vancouver et c'est un projet qui est porté par la mairesse Lisa Helps. Vous aurez tous les détails dans cet article de Kendra Wong dans le portail vicnews.com. On reste dans le portail vicnews.com à propos d'un nouveau règlement qui concerne surtout les touristes. Il se trouve que les touristes nourrissaient beaucoup les phoques ici à Victoria et c'est une pratique qui avait cours et qui était était toléré, mais qui ne sera plus toléré désormais. On va interdire aux touristes et aux résidents de nourrir les phoques et les autres animaux qui vivent autour du port de Victoria. Donc, c'est les autorités portuaires de Victoria qui ont pris la décision d'interdire de nourrir surtout les phoques. Et les autorités portuaires se basaient sur des recherches qui ont indiqué que cela était néfaste pour les phoques et pour les autres animaux et débalançait, déséquilibrait l'écosystème environnant. Donc, vous aurez cette nouvelle dans le portail de Vic News. On nous signale également dans Vic News l'ouverture d'un parc à thème, une installation récréative axée sur le thème de la trampoline du côté d'Esquimalt. Donc, c'est un peu un endroit où on peut aller lâcher son fou, comme on dit. C'est un endroit qui est consacré intégralement à la trampoline de manière à apporter des loisirs et du plaisir aux familles. Alors, c'est un endroit qui s'appelle Flying Squirrel. Alors, l'écureuil volant, si vous voulez, c'est un endroit bien nommé qui va ouvrir ses portes en mai. On parle d'un endroit qui détient 20 000 pieds carrés d'immobilier. Avec, il y aura également des courts de dodgeball et un petit court de basketball aux côtés des installations de trampoline. Vous aurez les détails dans vicnews.com. Alors, en terminant, je vous signale un papier publié dans le journal indépendant De Taï, qui est notre journal à nous ici sur l'île de Vancouver. C'est un journal indépendant qui fait du très bon boulot, qui mène des enquêtes très fouillées et l'édito concerne la campagne électorale qui a débuté cette semaine. Why this election should be about corruption? Pourquoi cette élection devrait porter sur la corruption? Voilà le titre de cet édito publié par De Taï. Et je vous donne la première phrase du texte qui donne très bien la couleur. Quand 76% des citoyens de Colombie-Britannique croient que leur gouvernement est acheté ou vendu, si vous préférez, il est temps de changer. C'est le temps du changement. Donc, une traduction libre de cette première phrase paraissant dans cet éditorial du Taï. Why this election should be about corruption? Dans le Taï, à l'adresse de taï.ca. C'est tout pour cette compilation des nouvelles provinciales et locales pour cette diffusion du 13 et du 14 avril. Restez à l'écoute. On va s'intéresser au temps qu'il fait dans quelques instants au retour de la pause musicale.
Au diable, demandez son dû. Mieux vaut tuer le diable que si le diable nous tue. Grain de sable que nous sommes. On t'a dit que le temps guérit tout et qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite. Et que l'avenir est devant nous, mais qu'on n'a que ce qu'on mérite. Que ce qu'on mérite. Yeah. Comme on s'épuise encore, encore et encore. Qui va sauver la mise quand il sera trop tard? Quand on aura toute la mer à boire. La mer à boire. La mer à boire. Pas dans ma tombe, tu sais, je suis né tout nu. Courte paille que nous sommes. On t'a dit que le temps guérit tout et qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on mérite. Et que l'avenir est devant nous, mais qu'on n'a que ce qu'on mérite, que ce qu'on. La mer à boire, la mer à boire.
Alors, c'était à l'instant une pièce de l'auteur, compositeur, interprète Karim Ouellet, intitulée La mer à boire. Un petit peu plus tôt dans l'émission, nous avions entendu une pièce du John Boulay Blues Quartet intitulée 11h45. Et c'est le moment, en fin d'émission, de se pencher sur la météo. Pour ceux qui nous écoutent en direct, on a actuellement 9 degrés à Victoria, c'est 10 degrés au centre-ville. Et pour la soirée, Environnement Canada nous prédit quelques averses avec un maximum de 10 degrés. Il y a même un petit pictogramme d'éclairs, donc il se peut qu'il y ait des orages dans la grande région de Victoria au cours des prochaines heures. La probabilité d'averse se situe quand même à 60%, c'est assez élevé. Et pour le début du congé pascal, vendredi 14 avril, un maximum de 10 degrés avec un maximum avec une probabilité d'averse plutôt de 60%. Pour le samedi 15 avril, un maximum de 12 degrés au mercure avec une probabilité d'averse de 40%, donc un petit peu moindre par rapport à la journée de vendredi. Et ça se dégage progressivement, nous dit Environnement Canada, dans la journée de samedi, si bien qu'on aura du temps ensoleillé pour le dimanche 16 avril, un maximum de 14 degrés, donc c'est une valeur quand même assez élevée. On n'a pas eu beaucoup de journées de beau temps depuis le début officiel du printemps, donc la journée de dimanche sera une journée de soleil, nous annonce Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca, avec un maximum de 14 degrés. Les nuages, toutefois, seront de retour lundi 17 avril avec un maximum de 13 degrés. Donc voilà pour le petit tour d'horizon de la météo pour le congé pascal. On va se laisser sur une pièce de Samuel Sixto et Ingrid Rondel, une pièce intitulée Un monde meilleur. Et là-dessus, je vais vous souhaiter un excellent congé pascal. On va se retrouver le mardi 18 avril pour une nouvelle édition du Débrief. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée.
Se vendent pour Vous écoutez CIRS FM.
Moi, je veux pas mourir, en tout cas pas tout de suite, en tout cas pas ici, je préfère faire ça ailleurs. La chose est claire, tant vous le dire que je pèterai pas du cœur. Ça fait déjà belle lurette que je l'ai mis sa tablette. Ok, fini les charades, j'ai cordon on rend du pain malade à force de tremper dans ma. J'ai l'air bien de réfléchir, c'est pas facile pour garder l'esprit tranquille. Plus une raison, j'y distorche, plus d'argent qu'on verra plus tard. C'est une douleur pas normale, mais c'est toi qui fais du mal. J'vais payer pour penser, et cerveau rendu Angelo à force de tremper dans l'eau. Moi je vends des gaz quand je monte la côte. J'ai du pied dans mes bottines. Quand je suis dans le troupe, c'est là que je patine. Ça avance pas vite à reculons. J'suis comme une pantoufle de fond de salon. Je donne un coup de pied dans le derrière. Du bas de ma peau par derrière. Avant de tremper dans le pied.
vois bien que tu vis des heures folles. T'es là perdu sans boussole. J'suis bien inquiet pour toi. Tu sais, quand la vie te trahit, qu'une histoire te brosse et que ton cœur se casse, c'est correct de pleurer. Mais n'oublie pas que t'as toujours en banque quelques jours de chance et un peu d'espérance. C'est juste une passe, il faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance, on va s'en sortir ensemble. Tout finit par s'user, nos habits, nos maisons, nos amours.